Ah, je pensais que c'était 12h30, mince. Bonjour à tous. Ah oui, comme Laurent l'a dit, je suis le fils de Jean-Claude et Nadia. Vous dire deux, trois trucs sur moi. Déjà, vous dire merci. Je sais que beaucoup ont prié pour ma santé ces derniers temps. Merci à vous. Voilà, il faut croire que le Seigneur a écouté vos prières. Je vais bien, je vais mieux. Alors j'ai un petit souci où on se dit pas guéri, officiellement je suis en rémission, mais voilà, ça va bien, je vous remercie. Vous parlez, oui, alors je connais votre église depuis quelque temps, c'est d'ailleurs la première assemblée où j'ai prêché, il y a un peu plus de 30 ans de ça, à l'époque de Philippe Butel, certains s'en souviennent. Le psaume 1, tout à fait, dis donc, waouh. Mince, je pensais vous refaire la même, il va falloir que j'improvise autre chose. Je suis étonné que tu te souviennes de cela, dis donc, le psaume 1, mais on va parler du même sujet du coup. Mais on parlera du psaume 1 aussi, voilà, vous voyez, en 30 ans, j'ai pas beaucoup évolué. Vous savez, de toute façon, enseigner la parole, c'est pas enseigner des choses nouvelles, c'est renseigner depuis 2000 ans les mêmes choses, mais essayer de les partager avec les mots pour qu'elles soient comprises par la génération d'aujourd'hui. Donc oui, et puis j'ai connu Philippe alors que j'étais tout jeune pasteur. Il est un petit peu mon aîné dans le ministère pastoral. Et nous étions, Laurent, pardon, et nous étions, Laurent et moi, dans la même union d'église. Il n'était pas encore votre pasteur. Et je me souviens lui avoir dit beaucoup de bien de votre assemblée en disant « Non mais tu verras, ce sera un endroit sympa. » Et je pense que, bah, vu le nombre d'années où il est parmi vous, c'est un mariage qui fonctionne bien, le ministère de Laurent parmi vous. En tout cas, moi, je suis vraiment reconnaissant pour mes parents qu'ils aient une assemblée comme la vôtre, avec des personnes vraiment fraternelles et un pasteur aussi bienveillant. Allez, puisque je suis dans le témoignage, je vais encore faire un peu de digression. Vous savez, pendant le Covid, on ne pouvait pas aller à l'église et regarder le culte sur Internet. Et mes parents regardaient le culte de Villefontaine sur Internet. Et moi, j'étais assez surpris en leur disant, mais vous savez, sur Internet, il y a des églises qui ont un super système pour filmer, et puis qui ont toute une équipe quasiment professionnelle de musiciens, et les cultes sont hyper dynamiques. Pourquoi vous regardez le culte de Villefontaine? Et ça se faisait sur Zoom. Et une fois que le culte était terminé, au lieu de raccrocher, les personnes se saluaient. Et j'ai compris pourquoi mes parents continuaient à regarder le culte de Villefontaine sur Internet. Parce qu'au-delà de la question très secondaire de la forme, est-ce que c'est dans un grand amphithéâtre, dans une petite communauté, est-ce que c'est plus ou moins bien filmé, quelle est la qualité du micro, il y a vraiment la question des relations les uns avec les autres. Et là où votre communauté n'a absolument pas à rougir, c'est sur l'amour fraternel, les uns les autres. Donc merci pour la façon dont vous entourez, vous accompagnez mes parents. Je pense qu'ils vous aiment aussi en retour. Donc moi, je me réjouis en tout cas de savoir qu'ils sont avec vous. Alors j'ai le micro juste devant mon ordi. Je ne sais pas comment ça va marcher, mais on va essayer de trouver une solution. J'ai piqué un ordi à mes parents qui n'est pas sous Windows, donc c'est un peu un casse-tête, mais ça va fonctionner. Mon ministère actuel, j'ai été 15 années pasteur de paroisse, et puis je suis actuellement ce qu'on appelle pasteur détaché pour la Fédération protestante de France auprès de l'aumônerie protestante aux armées, donc je suis ce qu'on appelle aumônier militaire protestant. Je sers actuellement et depuis pas mal d'années dans les troupes de montagne, donc je suis l'aumônier des troupes de montagne. Ce sont les militaires qui sont basés entre Chamonix et Gap, c'est ma zone de travail. Il y a pire comme endroit où travailler. Et donc, pendant la moitié de l'année, je suis avec eux en montagne. Le principe de l'aumônerie, c'est d'être auprès des militaires. On est soi-même militaire, hein, dans le cadre de l'aumônerie. On porte l'uniforme. Il peut même nous arriver par moment de porter l'arme quand vraiment la situation le nécessite. On évite le plus possible les aumôniers, mais parfois, il n'y a pas d'autre choix. Si on veut être avec eux dans certains convois, à certains moments, bah, il faut aussi être capable de gérer son secteur, c'est comme ça qu'on parle en termes militaires. Voilà, donc 6 mois de l'année, je suis avec eux en montagne, et puis le reste du temps avec eux en mission, généralement à l'autre bout du monde. Il m'est arrivé de faire des missions au Mali, au Niger, au Tchad, au Liban. Vous avez entendu de la situation de ces pays. Et là, dans un peu moins de 2 mois, je repars pour la Roumanie. Je dis je repars parce que ma dernière mission, c'était il y a un peu plus d'un an en Roumanie. Voilà, on pourra, si vous le souhaitez, après le culte, parler de ces sujets. C'est vrai que c'est un sujet qui est devenu un peu plus d'actualité ces derniers temps, la question de l'armée française et de son positionnement. Voilà, je ne souhaitais pas que ce soit le sujet de la prédication, ce n'est pas une question aussi importante qu'on le pense. Laissons cette question aux médias, aux chaînes info qui tournent en boucle avec les commentateurs et regardons ensemble à quelque chose de bien plus important, la parole de Dieu. Est-ce qu'elle peut nous dire dans nos vies, mais aussi dans ces circonstances qui sont des circonstances que l'on peut considérer comme, comment on va dire, inquiétantes n'est pas le bon mot, mais qui peuvent effectivement venir troubler notre joie. Je ne vais pas prêcher vraiment sur un texte ce matin, du coup j'évite le psaume 1, tu vois, mais sur un thème, et du coup je reviens au psaume 1. Un thème qui est central dans la Bible, et on va l'illustrer avec un verset qui est sans doute un des versets les plus importants de l'Écriture. Et là, je viens de tomber dans le travers de tout orateur qui vous dit « le texte dont je vous parle ce matin, il est important ». Je ne connais pas un pasteur qui commence sa prédication en disant « bon, c'est un texte sans importance, mais on va quand même passer 30 minutes à réfléchir dessus ». Mais la petite différence, c'est ce que je vous dis est vrai, j'en suis sûr. Je vais vous expliquer pourquoi. Toutes les paroles ne sont pas à prendre de la même façon dans la Bible. La Bible, vous savez, est un livre diversifié. D'ailleurs, ce n'est pas un livre, c'est 66 livres avec des récits divers et variés, des personnes divers et variées qui interprètent, et vous serez d'accord avec moi que, par exemple, les paroles de Jésus n'ont pas la même importance que les paroles de Pilate, ou de Judas, ou du souverain sacrificateur, ou autre. Voilà. Et donc, il s'agit d'un texte qui est une parole de Jésus, une parole de l'Évangile, mais en plus, une parole qu'il ne prononce pas à n'importe quel moment de son ministère, mais au moment le plus important. C'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale, c'est un moment où Jésus va peu avant sa mort, faire une prière dans laquelle il va résumer les raisons profondes de sa venue, de son enseignement. Et donc, on est au cœur de ce que Jésus veut nous transmettre dans la prière sacerdotale. Et donc, ce verset se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, verset 3. Si vous voulez prendre vos Bibles, prenez le temps d'y aller. On pourrait dire que ce verset résume le projet de Dieu pour nous. Je n'avais pas de lunettes non plus au début où je prêchais, mais c'est vrai que maintenant j'en ai un petit peu plus besoin. On m'a dit que c'était normal après 50 ans. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Je me permets de le relire. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, on va ensemble méditer ta parole. Les paroles que je vais prononcer seront bien humaines, bien incertaines, bien tâtonnantes, bien hésitantes, bien petites par rapport à la grandeur de ton évangile, par rapport à la grandeur de ta personne. Mais Seigneur, nous avons cette foi ce matin, cette assurance que ton Esprit Saint peut venir dans nos cœurs, dans nos vies, nous faire du bien grâce à ta parole. Et Seigneur, c'est ma demande ce matin que nous puissions tous sortir de ce culte en ayant un peu plus ressenti ta présence dans nos vies. Amen. Là encore, c'est un travers des orateurs de faire appel à l'Esprit Saint en se disant si moi je suis maladroit, lui au moins il fera le travail derrière moi. Mais c'est une expérience que j'ai déjà vécue réellement. Il m'est arrivé d'amener quelqu'un pour la première fois au culte et de me dire, oh là, l'orateur ce matin, qu'est-ce qu'il n'a pas été bon? C'était mon jugement, à tort. Hein. Et la personne est sortie du culte avec un grand sourire en disant, mais c'est formidable ce que j'ai entendu ce matin, ça m'a fait du bien. Donc vous voyez, on doit dépasser vraiment, lorsqu'on est en train de parler de nos cultes, la question de Alors, on doit chercher à faire les choses au mieux possible, hein. C'est bien si on a un orateur qui est intéressant plutôt qu'ennuyeux, mais on doit dépasser ce jugement-là pour vraiment avoir conscience que nous sommes en train de parler du Seigneur et de la parole de Dieu qui est bien plus grand que ces questions de qualité humaine d'orateur. Je reviens à notre verset. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Deux idées fortes dans ce verset. Le premier, c'est celui de connaître Dieu. Le deuxième, c'est l'idée d'avoir la vie éternelle. Il en faudrait bien plus qu'une prédication pour aborder ces deux sujets. Connaître Dieu, étant adolescent, on m'avait offert le livre de Packer, je ne sais plus son prénom, qui s'appelle Connaître Dieu, justement. James Packer, un livre qui m'a passionné, je vous invite à le lire si vous avez l'occasion. J'ai pas le temps de trop développer ce sujet, mais juste pour l'effleurer un tout petit peu ce matin, rappeler que ce n'est pas du tout la même chose de connaître Dieu que d'avoir des connaissances sur Dieu. Connaître Dieu, ça ne veut pas dire étudier la théologie, augmenter notre intelligence, notre culture sur les questions bibliques. C'est une bonne chose hein, de faire de la théologie et de lire la Bible, je ne dis pas le contraire, mais c'est autre chose que de connaître Dieu. Quand la Bible parle de connaître Dieu, elle veut dire rencontrer Dieu. Vous savez, à l'époque de Jésus, il y avait des spécialistes de la loi qui étaient autour de lui, qui le critiquaient beaucoup d'ailleurs, qui étaient des théologiens et qui pourtant ne connaissaient pas Dieu en fait, ou pas beaucoup, on va dire. En tout cas, ils sont vraiment passés à côté de ce que Jésus est venu leur annoncer. Jésus d'ailleurs était assez dur avec eux, il les appelait des sépulcres blanchis. Alors l'image ne nous parle peut-être pas, mais ça veut dire des tombeaux, hein, des tombes, voyez? Alors une tombe, ça paraît très religieux, il y a du marbre, il y a une croix, il peut y avoir un verset biblique dessus. On se dit, oh là là, c'est très religieux, mais dedans il y a un cadavre. Et en fait, si on confond connaître Dieu au sens rencontrer Dieu, avoir une relation avec lui, avec simplement le fait d'être religieux, d'avoir des connaissances sur Dieu ou des pratiques religieuse, eh bien, on est comme un sépulcre blanchi, nous dit Jésus. Ça veut dire qu'on est religieux à l'extérieur, mais il y a un cadavre à l'intérieur. Jésus nous propose de ne pas trop nous concentrer sur l'extérieur, la forme, elle est ce qu'elle est, mais vraiment de travailler avec lui l'intérieur, cette rencontre avec Dieu. Et ça, c'est accessible que vous soyez ici pour la première fois et que vous entendiez pour la première fois parler de la Bible, ou alors que vous ayez de nombreuses années derrière vous de vie chrétienne, cette question de relation avec Dieu, de rencontre avec Dieu, elle est essentielle. Dans mes petits soucis de santé derniers, il y a eu des tas de spécialistes qui se sont penchés sur des choses très complexes avec différentes analyses. Ils savent des choses sur moi. Des choses que mon épouse ignore. Mais est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils me connaissent mieux que mon épouse? Voilà, mon épouse n'a pas lu les analyses des scientifiques, là, des médecins, mais elle me connaît au sens que elle me côtoie. C'est peut-être pas toujours facile d'ailleurs de me côtoyer au quotidien. Tous ceux qui savent, sont en couple le savent. Alors, connaître Dieu a un lien avec la vie éternelle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère le préciser. Peut-être que ça vous est évident, et tant mieux. Moi, j'ai dû le découvrir, parce qu'enfant, je pensais que la vie éternelle, c'était la vie après la mort. C'était qu'après la mort, on n'était pas mort et on était encore vivant. Et c'était ça, la vie éternelle. Et donc, ce verset voudrait dire, quand on connaît Dieu, après notre mort, on aura la vie éternelle. Mais ce n'est pas ce que dit ce verset. Ce verset, vous avez remarqué, parle au présent. Et ils auront la vie éternelle, ceux qui te connaissent. C'est pas ce que dit Jésus. Jésus dit, ceux qui te connaissent ont la vie éternelle. C'est quelque chose que vous avez déjà. La vie éternelle, c'est de te connaître. On parle de maintenant. Ce texte nous concerne ce matin. Il a une incidence sur notre vie d'aujourd'hui. Si nous acceptons, je le disais tout à l'heure dans ma prière, de nous laisser toucher par la parole de Dieu, ayons cette assurance que nous allons sortir de ce culte en étant renouvelés, changés, transformés. Cette question au présent d'avoir la vie éternelle veut dire quoi? Eh bien, c'est intéressant de voir les autres traductions possibles de cette formule. La vie éternelle dans la Bible, ça veut dire la vie encore plus mieux que la vie que nous avons déjà. Une vie abondante, une vie formidable, une joie de vivre, on pourrait dire. Ou le dire autrement, être heureux, le bonheur, avoir une vie épanouie. Donc on peut traduire ce verset, le bonheur, c'est de te connaître. Et donc c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui, et je me rapproche du psaume 1, tu vois, j'ai pas beaucoup évolué. Rappelez-vous le psaume 1, il est question de marcher sur le bon sentier, d'éviter le mauvais sentier. Pourquoi? Pour être heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas. Les lois de Dieu, vous savez, les 10 commandements. Quand on regarde dans le Deutéronome, qui est alors vous les retrouverez dans l'Exode, mais aussi dans le Deutéronome, les 10 commandements, il est précisé, Deutéronome 5, 29, observe mes commandements afin que tu sois heureux. Si Dieu donne des commandements, c'est pas parce que ça lui plaît, il a comme ça des hobbies, il voudrait qu'on soit comme ci et pas comme ça. Non, non, c'est pour que nous soyons heureux. Dans l'évangile de Matthieu, il y a un texte central où Jésus donne l'enseignement qui est au centre de son ministère. On appelle ça le sermon sur la montagne, dans lequel nous trouvons les béatitudes. Et les béatitudes, comme leur nom l'indique, sont l'idée d'être heureux. Heureux les pauvres, heureux serons-nous quand nous allons suivre le chemin que Jésus nous propose. Continue sur ce petit quiz. Dans l'épître aux Éphésiens, nous avons cette invitation à honorer notre père et notre mère. Pour quelle raison? Afin que nous soyons heureux. Je vois que vous connaissez bien vos Bibles. Et puis je conclurai ce rapide survol de l'écriture par l'épître de Jacques. Jacques chapitre 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans ses activités. Ça vous paraît peut-être évident, et tant mieux pour vous, mais pour moi, ça a vraiment été une découverte de comprendre que tout ce qui était dans la Bible, les recommandations, les lois de Dieu, sont là pour mon bonheur. Je vous dis ça parce qu'on est parfois influencé par là où on a grandi, dans l'église où j'ai grandi. Moi, en tant qu'adolescent, en tant que jeune homme, j'entendais surtout des obligations, des interdits, presque le sentiment de dire, ben, quand on est chrétien, on a moins de droits que les copains, on a des choses qu'on s'autorise pas, on est un peu moins heureux qu'eux, mais dans une perspective future de la vie éternelle. Et j'avais mal compris. Dieu a des conseils pour nos vies qui sont bons pour aujourd'hui. Les deux idées qu'on retrouve le plus dans la Bible, c'est l'idée de liberté, on l'a vu avec Jacques, hein, la loi de la liberté, et l'idée de bonheur. Jésus est venu dans ce monde pour nous rendre libres et pour nous rendre heureux. Et c'est terrible de voir que parfois, ce qu'il ressort de ce qu'on entend comme la morale judéo-chrétienne, c'est des obligations et des interdits. Alors ce matin, nous parlons de bonheur et je pourrais me poser la question, est-ce que je suis bien placé pour vous en parler? Et sans doute que si ça revient si souvent, ce thème, dans mes prédications, peut-être que c'est que moi-même, j'ai du travail à faire. Je ne suis pas un parfait exemple de bonheur. Et ma prédication n'est pas de vous dire, regardez-moi, regardez comme je suis génial et faites comme moi. Non, j'aimerais plutôt vous dire que moi, je suis un handicapé du bonheur, on va dire, ou quelqu'un qui ait besoin de travailler ce sujet dans ma vie. Et la question n'est pas, est-ce que je suis meilleur que les autres? Est-ce que je suis pleinement heureux? Parce que la réponse à ces deux questions serait, ben non, voilà. La question est plutôt de vous partager que, avec le Seigneur, je suis plus heureux dans ma vie que je ne le serais s'il n'y était pas. Et le message de ce matin, ce serait hypocrite et prétentieux de dire, ça va vous rendre pleinement heureux et tout le temps heureux, parce que là, on irait justement vers une religiosité de la forme. Vous connaissez peut-être un petit livre qui s'appelle Crise de foi, qui se moque un petit peu de la foi chrétienne. Et il y a un dessin où on voit un couple qui rentre à la maison et l'un dit à l'autre, chérie, tu peux arrêter de sourire, on a quitté l'église. Voilà. À l'église, on fait semblant que tout va bien et puis après, on reviendra. Soyons naturels, soyons nous-mêmes. Il y a des moments de blues, il y a des moments sombres que nous traversons. Nous les traversons avec le Seigneur et il nous rend plus heureux que nous le serions sans lui. Voilà ce que je veux partager avec vous ce matin. On va aller maintenant sur des idées un peu plus concrètes. J'aimerais pas n'être que théorique sur ce sujet. Avouons-le que nous vivons dans une société où nous sommes, je le disais, des handicapés du bonheur. Je parlais de moi tout à l'heure, mais je pense que peut-être que vous pouvez aussi faire votre cette idée. Une des choses qui nous abîme beaucoup, je pense, c'est qu'on est dans une société dite de consommation ou de possession, en fait, hein, où on pense que bonheur rime avec cela. Être heureux, c'est réussir sa vie, et réussir sa vie, c'est avoir une épouse, une belle maison, avoir des moyens. Nous sommes une société qui a progressé dans beaucoup de domaines. Les soins médicaux, je suis bien placé pour en parler, j'ai parcouru quelques hôpitaux ces derniers temps. On n'a jamais été aussi pointu sur les questions médicales. Et le petit souci de santé que j'ai, il y a 50 ans de ça, j'en serais peut-être mort. Nous avons fait des progrès dans la médecine, nous avons fait des progrès dans l'informatique, dans les moyens de communication, nous sommes capables d'aller dans l'espace. Pourtant, avons-nous fait des progrès sur la question du bonheur ? Si on en croit les différentes études et sondages, il semblerait même que nos sociétés dites modernes ont même régressé sur ce sujet. De nos jours, il y a de plus en plus de personnes qui vont pas bien, qui doivent consommer des antidépresseurs, qui demandent l'aide de spécialistes. Réalisons qu'on peut être heureux en ne vivant pas des circonstances idéales pour nous. Parce que chercher uniquement des solutions dans les circonstances, je serai heureux lorsque j'aurai rencontré la bonne personne, lorsque j'aurai telle ou telle possession, lorsque j'aurai réussi tel ou tel chemin, parcours professionnel, c'est ignorer que les épreuves seront forcément le long du chemin. Toute vie, même la plus réussie, connaîtra le vieillissement, la maladie et la mort. Et si on pense qu'il faut ôter ça de notre vie pour être heureux, eh bien c'est une impasse. Nos vies connaissent des épreuves, des obstacles. Pourtant, nous pouvons être heureux au travers de cela. Parce que le bonheur ne dépend pas de nos richesses, mais cela, ou de nos richesses extérieures, je pourrais dire, mais le bonheur dépend davantage de nos richesses intérieures, quelque chose qui est invisible, qui n'est pas mesurable ou quantifiable. Alors, ce qui rend heureux dans la pratique, on pourrait dire, est assez subjectif. Vous voyez, moi, je suis un haut alpin, hein, j'ai grandi en montagne, c'est mon papa qui m'a appris les joies de la vie en montagne, il était garde forestier, donc il lui arrivait de m'amener avec lui en montagne. Et pour moi, le bonheur, c'est de se retrouver en montagne, de gravir une falaise, par exemple, d'avoir beaucoup de vide sous mes pieds, de sentir ce vent qu'on a en haute montagne, voilà. C'est vraiment quelque chose qui me rend heureux. Donc vous voyez, aumônier des troupes de montagne, je suis plutôt à ma place. Par contre, faire un bon repas n'est pas quelque chose qui me rend heureux. Moi, j'ai quelques phobies alimentaires et puis j'ai du mal avec le bruit des assiettes. Peut-être quelques traits autistiques là-dessus, je ne sais pas, on n'a pas creusé plus que ça. Mais un repas est quelque chose qui me met mal à l'aise. Et peut-être que vous êtes différent de moi. Peut-être que vous, un repas avec des amis, vous vous réjouissez. Par contre, si on vous dit on va t'accrocher sur une falaise avec du vide en dessous, vous n'allez pas être à l'aise. Ouais. Ce que je veux dire par cet exemple, c'est que ce que l'on aime dans la vie, ce qui nous rend heureux, est assez subjectif. Et c'est bien d'être conscient de cela pour accepter que nous soyons tous différents dans la façon que nous avons de vivre et de choisir ce qui nous rend heureux. Et je pense qu'il y a là vraiment une notion forte pour l'Église. L'Église n'est pas un lieu où on donne un modèle figé de comment il faut vivre pour être heureux. J'en profite de ne plus être pasteur de paroisse pour dire que parfois on veut mettre une pression au pasteur et à sa famille en pensant qu'il doit vivre de telle ou telle manière. Et puis on peut se la mettre aussi entre chrétiens en disant qu'à l'église il faut être comme ci ou comme ça. Eh bien sachons accepter cette diversité, accepter que chacun parmi nous est heureux à sa façon. Je pense par exemple à la pression qu'on a mis parfois aux gens célibataires en leur disant bah, pour t'accomplir dans la vie, tu dois être en couple. Mais on est qui pour dire ça? On n'est pas à la place de cette personne, on ne sait pas ce qu'elle vit, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles elle n'est pas en couple. Et puis, on pourrait aussi dire aux célibataires que la vie de couple n'est pas toujours évidente et que parfois on est très bien aussi en étant seul. Ne pas obliger l'autre à être ce qu'on voudrait qu'il soit, lui laisser la liberté d'être comme il le souhaite, comme il le pense. Si nous nous sentons d'éternel incompris, sachons que l'éternel, lui, nous comprendra. Dieu ne fait pas du pré-apporté, il fait du sur-mesure pour chacun d'entre nous. Et accepter dans l'Église que mon frère, ma sœur ne choisisse pas forcément le chemin qui est le mien. Là, je parlais plutôt des pratiques, des choix de vie, mais dans les textes que nous avons lus, il y a davantage cette question du bonheur qui est dans nos cœurs, dans nos vies, et qui va au-delà des circonstances extérieures. Il y a un lien fort dans la Bible entre la louange et le bonheur. J'aimerais développer cela maintenant. Je vais partir du chapitre 43 du prophète Ésaïe, quand il est écrit ceci, c'est verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ça, c'est une affirmation de Dieu. Vous ne trouvez pas que cette affirmation est bizarre? C'est qui ce Dieu mégalo qui a créé des humains afin que ces humains passent leur temps à dire « Oh, tu es formidable, tu es formidable, tu es formidable ». C'est quoi cette histoire? En quoi on devrait sans arrêt dire que Dieu est formidable? Rappelons-nous tout ce qu'on a dit avant, la Bible est là pour notre bonheur. Dans la Bible, on trouve des conseils pour nous rendre heureux. Pourquoi est-ce que nous sommes ainsi invités à louer Dieu? Parce qu'il s'agit sans doute, ça fait un peu exagéré de le dire ainsi, mais d'un secret du bonheur, d'une clé du bonheur. C'est très à la mode, vous savez, si vous allez un peu sur les réseaux sociaux et autres, 10 secrets pour être heureux, etc. Mais moi, j'en ai qu'un pour vous ce matin. Celui-là, il marche. Un secret pour être heureux, pratiquez la louange. Et là, il y a un malentendu autour de la louange. Alors moi, je suis jaloux de Laurent parce que je ne suis pas guitariste, je ne suis pas musicien, je ne suis pas mélomane. Moi, je viens de la montagne, vous savez, nous, on est un peu des gens rustiques qui passons notre temps à faire du sport. Voilà, la musique, ça ne me parle pas. Et c'est vraiment super que vous ayez un pasteur guitariste. Moi, j'aimerais bien, parfois, quand je suis dans le désert avec mes personnels militaires entre deux véhicules blindés et que je fais un petit culte, pouvoir sortir ma guitare et animer un temps comme ça, mais je sais pas faire. Voilà. J'ai essayé, mais je suis vraiment pas doué en plus. En plus, je ne chante pas très bien. Si vous êtes comme moi, rassurez-vous. La louange, c'est aussi pour vous. On a parfois fait une confusion entre le chant et la louange. Alors chanter, c'est très bien. D'ailleurs, c'est Luther qui disait que chanter, c'est prier deux fois. Donc c'est vraiment pouvoir repasser des paroles dans notre cœur dont on se souvient. J'ai d'ailleurs aussi été aumônier d'une maison de retraite pendant quelques années. Et les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer ne se rappellent plus de grand-chose, mais elles se rappellent le plus souvent des paroles des cantiques qu'elles ont chantées quand elles étaient enfants. La louange, je le disais, c'est pas simplement chanter. La louange, c'est dire à Dieu merci pour telle et telle chose. Ça peut être par le chant, ça peut être par la prière, ça peut être dans mes pensées, ça peut être par l'écrit, ça peut même être par d'autres dimensions artistiques. On peut penser à des peintres ou des sculpteurs qui peuvent exprimer par leur art leur reconnaissance pour les belles choses qui arrivent dans leur vie. Il y a un verset qui dit « Il pleut sur le juste comme sur le pécheur ». Encore un verset que je comprenais très mal quand j'étais enfant. Pour moi, c'était « Il arrive des problèmes à tout le monde ». Pas du tout. On est dans un contexte de pays désertique et la pluie est une bénédiction. Et la Bible nous dit là « Dieu fait du bien à celui qui est croyant, à celui et à celui qui est non-croyant. Dieu fait du bien à tous. Alors c'est quoi la différence? La différence, vous vous rappelez peut-être du texte des 10 lépreux que Jésus guérit, et il y en a un seul qui revient voir Jésus pour le louer. Et bien, la différence, c'est que celui qui est croyant, il exprime sa reconnaissance à Dieu pour ce bien qu'il a reçu. Pourquoi est-ce que c'est un secret du bonheur? Alors là, je ne suis pas un spécialiste du cerveau, mais j'ai lu quelques études ou quelques théories sur le sujet, et j'aimerais simplement vous les citer. Les spécialistes de la manière dont notre cerveau fonctionne nous parlent de ce qu'on appelle des biais cognitifs, ça veut dire des habitudes, des manies qu'a notre cerveau. Et il y a deux manies dont ils nous parlent, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité et le biais de confirmation. Ça veut dire que notre cerveau a tendance, lorsqu'il voit plusieurs informations devant lui, à choisir celles qui sont les plus négatives et à choisir celles qui confirment ce qu'il croit déjà. Je vous explique. Si à la fin de ce culte, 10 d'entre vous viennent me parler, 9 me disent « Ah, mais ton message m'a fait du bien ». Et il y en a un qui me dit « J'ai rien compris à ce que tu as voulu dire, c'était ennuyant, vraiment, c'était pas terrible ». D'après vous, ce soir, en réfléchissant au culte, je vais me rappeler de quoi ? Je vais me rappeler du négatif, voilà. Il m'est arrivé, alors je vous partage, vous voyez, j'ai encore des progrès à faire. Il y a 2 semaines, je vais voir mon chirurgien pour faire le bilan à peu près au 1 an de mon opération. Et il me dit, écoutez, vraiment, vous vous remettez très bien. Le fait que vous pratiquez le sport fait vraiment la différence. Et pour moi, on est en bonne voie vers la guérison, vraiment. Et en partant de l'hôpital, quelqu'un raye ma voiture. Le soir, j'ai pensé à ce fait qu'on m'avait rayé ma voiture. Et j'ai quasiment oublié le fait que c'était une super nouvelle de savoir que j'allais mieux. Vous voyez comment notre cerveau a tendance à se focaliser sur ce qui est négatif. Alors pourquoi on a ça? C'est une bonne chose en fait. C'est pour nous préserver. Imaginez, alors on va reprendre une image de montagne. Je suis devant... Maman, tu vas devoir te boucher les oreilles. Je suis devant un beau parterre de fleurs en montagne. Il y a des édelweiss, il y a des gentianes, voilà. Et il y a une vipère qui se balade au milieu des fleurs. Voilà. La beauté des fleurs, pour un instant, je vais l'oublier. Je vais me focaliser sur ce qui est dangereux, sur la vipère. Lorsque je cours un danger, c'est sain que mon cerveau se focalise sur ce qui ne va pas. Sauf que cette habitude qu'a notre cerveau, elle nous pourrit la vie au quotidien. Parce qu'il y a plein de moments dans ma vie où le danger n'est pas là. Et où pourtant, mon cerveau continue à se focaliser sur ce qui ne va pas. Je suis devant un beau coucher de soleil. Et au lieu de profiter de cet instant, mon cerveau est en train de me rappeler que, ouais, quand même, au travail, hein, y a un tel qui n'a pas été sympa avec moi, et puis c'est compliqué, vous voyez. On a cette tendance à se focaliser sur le négatif. Notre biologie est ainsi faite. Et puis, il y a le biais de confirmation, ça veut dire qu'on va même regarder les choses qui vont confirmer ce qu'on croit déjà. Citation dit que le bonheur est un puzzle qui est fait de tant de pièces qu'il nous en manque toujours quelques-unes et il y aura toujours dans nos vies des sujets de se plaindre, des sujets de dire que ça ne va pas encore, il manque ceci ou cela pour que je sois heureux. J'aime aussi cette citation qui dit « Je me plaignais de ne pas avoir de chaussures jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas de pieds. » Et au lieu de se focaliser sans arrêt sur ce qu'on n'a pas, ce serait bien aussi de réaliser ce que l'on a. C'est d'ailleurs une chose qu'il faut vraiment... On travaille avec ça avec nos soldats, parce qu'en tant que militaire, on est parfois en confrontation de situations de guerre, de pays en guerre, et on a beaucoup de mal à comprendre les problématiques qu'on a, nous, en France, où on a des privilèges d'être en paix, d'avoir un toit, de pouvoir accéder à des soins, de ne pas craindre en permanence pour sa vie. Et parfois, on passe vraiment à côté de ces bénédictions. Eh bien, la louange, c'est justement ça, c'est réinvestir, alors certains diront reprogrammer notre cerveau ou recentrer nos regards vers ce qui est bon, vers ce qui nous fait du bien et vers ce qui nous rend heureux. Je cite ce verset, « Lorsqu'on tourne vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie ». Eh bien, une des façons, me semble-t-il, d'être davantage heureux dans sa vie, c'est de savoir prendre du temps pour regarder ce qui est bon dans nos vies. Je vous invite à essayer de le faire. Essayez dans les jours qui viennent. Alors, selon vous, si vous êtes plutôt du matin, plutôt du soir, de l'après-midi, vraiment, sentez-vous libre de faire comme vous le voulez. Ça peut être sur un carnet en prenant des notes, ça peut être dans votre tête, ça peut être sur un clavier d'ordinateur, au dictaphone. Voilà. Faites vraiment la manière que vous voulez. Mais prenez un peu de temps pour vous poser et réfléchir aux bonnes choses qui vous entourent. Peut-être qu'au début, ça sera un petit peu difficile. Peut-être qu'en faisant cet exercice, ça deviendra de plus en plus naturel. Et peut-être qu'assez rapidement, vous n'aurez même plus à privilégier un temps donné et à vous poser, mais que ça vous viendra normalement dans la journée. Regardez les belles choses qui vous arrivent. J'étais dernièrement avec une personne en voiture et cette personne m'expliquait que rien n'allait dans sa vie, que tout se passait mal, qu'il n'avait vraiment pas de chance. Et on allait quelque part où on devait se garer et il me disait, en plus, là où on va, on n'aura aucune chance de trouver une place de parking. Et alors qu'il continue à me dire que tout va mal dans sa vie, on arrive et une voiture sort juste devant nous et on peut se garer. Il ne l'a même pas vu, il a continué à dire que tout allait mal, vous voyez. Et parfois, on est tellement focalisé sur ce qui va mal que ce qui va bien, on ne le voit même pas. Eh bien, la louange, c'est justement ça. La louange, c'est recentrer notre vie sur les belles choses que l'on a. J'ai eu l'occasion de vivre des missions un petit peu difficiles, on va dire. Je ne donnerai pas de détails volontairement. Mais il m'arrive maintenant de dire à nos militaires qui parfois se plaignent que la mission est ennuyeuse, que les circonstances sont un petit peu difficiles, de leur dire « mais vous ne réalisez pas, on a encore nos deux bras et nos deux jambes ». Et on a des camarades qui, malheureusement, non plus ça. Sachons nous réjouir aussi pour les bonnes choses que nous avons. Et un petit clic encore au-dessus, apprenons aussi l'empathie du bonheur. C'est ce que j'entends par là. Vous savez, l'empathie, souffrir avec ceux qui souffrent, c'est une très bonne chose. Hein, vraiment d'avoir de la compassion, de l'empathie. Ceux qui ont prié pour moi pendant ma maladie, vous avez fait preuve de cette empathie. Mais ne vous arrêtez pas là, ayez aussi cette empathie du bonheur, ça veut dire que réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, soyons heureux aussi par procuration, telle personne que je côtoie, il lui est arrivé une belle chose dans sa vie, eh bien le Seigneur fait naître en moi non pas de la jalousie, mais de la joie, parce que il est heureux, il a fait quelque chose de bien. Mon fils pratique une boxe qu'on appelle le Muay Thai, pour ceux qui sont peut-être... Moi, je ne connais pas bien, mais il y a des valeurs très, très belles dans ce sport, et notamment, même le perdant arrive à se réjouir de la victoire du gagnant. Pourtant, c'est surprenant, hein, mais il y a vraiment cette capacité. Si vous avez l'occasion de voir un combat, à la fin, ils se félicitent l'un l'autre, et ils se prennent dans les bras, vraiment. Il n'y a pas, comme dans d'autres sports, ce côté où on s'agresse verbalement et autres. Au contraire, on considère que même le perdant peut se réjouir de la victoire du gagnant. Je conclus par ces paroles. Je ne suis pas très mélomane, donc je ne vais pas vous les chanter, je vais simplement vous les lire. Je vous invite à les entendre comme une prière. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et je conclurai par cette phrase qui n'est pas de moi, mais qui dit ceci. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle. L'autre en faisant comme si tout était un miracle. Amen.